Bienvenue sur le podcast La Table des Experts d'un métier presque parfait. Tu ne sais pas quel est le bon métier pour toi, tu ne sais pas quoi faire après le bac, tu es en reconversion pro, tu veux changer de métier mais tu ne sais pas lequel choisir, alors tu es au bon endroit.
Un métier presque parfait, c'est Clémentine qui teste tous les métiers avant la retraite pour te fournir les infos concrètes et que tu puisses faire un choix éclairé.
Le podcast, animé par Olivier, est là pour aller en profondeur dans le métier, tout en ayant une mixité et une représentativité. Hommes-femmes, seniors-juniors, salariés indépendants, handicap, mais également aborder la RSE et la formation.
On se retrouve donc sur la table des experts avec Élise et Clémentine. Clémentine que vous connaissez, hein, la Rambo de la vidéo, celle qui veut tester tous les métiers du monde avant la retraite. Et c'est un petit peu logique aujourd'hui qu'elle teste le métier de podcasteuse. Bonjour Élise, bonjour Clémentine.
Bonjour.
Bonjour.
Clémentine, ben on va te laisser donc animer cette partie-là puisque tu vas tester le métier. Donc vas-y, lance-toi.
Eh bien, bienvenue sur le podcast et merci de nous faire découvrir votre métier. J'ai plein de questions à vous poser. Et la première... C'est quoi le métier de podcasteur ? Honneur aux dames, Élise, peux-tu nous expliquer en une phrase rapidement un petit peu ce que c'est pour toi le métier de podcasteur ?
Alors, un podcasteur ou une podcasteuse est une personne qui anime un podcast.
D'accord, très bien. Du coup, Olivier, peux-tu nous expliquer un peu ce que c'est qu'un podcast ? La perche est tendue.
En fait, un podcasteur, c'est celui qui va créer des émissions, qui va créer des histoires, qui va les enregistrer, qui va les diffuser pour que ce soit entendu par la plupart des personnes.
Très bien, merci beaucoup pour cette définition qui nous éclaire un petit peu plus sur le métier. Sans plus attendre, on va commencer avec Barthélémy qui va nous parler du coup de la formation.
J'accueille sur la table des experts aujourd'hui pour un métier presque parfait, un invité exceptionnel. Alors, si je vous dis extraterrien, si je vous dis le podcast du sport français, et si j'ajoute qu'il interviewe les plus grands athlètes pour comprendre les clés de la réussite, alors bonjour à toi Barthélémy et bienvenue sur un métier presque parfait.
Eh bien salut Olivier, merci beaucoup de ton invitation. J'embrasse aussi Clémentine pour ce super projet et je suis ravi d'être là aujourd'hui et je vais essayer de partager un maximum de mon expérience et de valeur.
Bah c'est nous qui te remercions. Voilà, tu restes quand même une guest star dans le domaine du podcast aujourd'hui, donc on est bien content de t'avoir parmi nous. Pour revenir effectivement sur la partie formation, parce que les personnes cherchent toujours un peu d'informations et de formation, est-ce qu'il existe aujourd'hui un cursus ou une formation pour pouvoir pratiquer ce métier de podcasteur ?
Alors pour devenir podcasteur, oui, tu vas avoir des formations professionnalisantes. Alors les plus connues peut-être que c'est des écoles de journalisme, tu vois, qui vont être des formations très généralistes à la création de contenu de manière générale, à la fois écrit, vidéo et audio, dans lequel généralement on va être amené à se spécialiser à un moment donné, et soit effectivement sur la production écrite, soit sur la production audio. Après, pour le métier vraiment de podcasteur en soi, il y a des formations à la création de podcasts, il y en a pas mal. On peut les retrouver maintenant dans plus en plus d'organismes de formation hein, qui existent, qui vont être certifiés qu'à l'UEPI ou qu'on pourra avoir avec son CPF. Mais si tu veux, ça reste quand même un métier dans lequel si on veut en vivre, il faut avoir vraiment un état d'esprit d'entrepreneur et il faut développer beaucoup de choses autour que uniquement la production de son et la production de contenu audio, comme la distribution, la commercialisation de ces contenus. Donc moi, si tu veux, j'ai appris énormément sur le tas en 5-6 ans d'expérience. Et selon moi, aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de vraie formation complète pour de quelqu'un qui part de zéro jusqu'à créer un podcast et en vivre. Nous, tu vois, par exemple, chez Extra Bootcamp, on a des petites formations, donc certaines qui vont être pour créer un podcast, d'autres qui vont plutôt être pour en vivre une fois qu'on a déjà créé son podcast, par exemple. Et on est en train de lancer d'autres formations sur comment faire grossir cette audience, comment créer du contenu autour de son podcast, comment créer des podcasts de marque aussi pour d'autres, pour des entreprises. Donc ça, c'est un petit peu notre vision, plutôt d'essayer de découper en micro métier, surtout en micro besoin. Alors micro, ça reste quand même des formations très denses. Hein. Il y a plus de 10 heures à chaque fois, beaucoup d'exercices. Mais voilà, pour te répondre, voici un petit peu le paysage qui existe aujourd'hui.
Donc en fait, si je comprends bien, aujourd'hui, si on cherche une école mais qui ne se concentre que sur la partie podcast, Clairement, il y en a pas, quoi. Ça reste que des options dans des écoles de journalisme ou que des options au niveau montage audio, plus ingénieur du son, des choses comme ça. Mais il n'y a pas vraiment d'école de podcasteur en France.
Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est un métier quand même aussi d'indépendant avec une part entrepreneuriale assez importante. Et on se rend compte en France que ce type de métier-là, parfois, n'est pas forcément bien accompagné ou en tout cas bien pris en charge par les écoles qui vont peut-être plutôt former à des métiers très salariés, en tout cas, et des carrières. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Hein, quand même, on le voit depuis 4-5 ans, de nombreux podcasteurs indépendants ont lancé leur formation, comme la nôtre. Donc, on y vient. Il y a aussi de plus en plus de contenu gratuit. Je partage énormément de contenu sur LinkedIn, justement, pour apprendre aux podcasteurs à se développer. C'est du contenu que je fais gratuitement. Alors, bien sûr, c'est dans un objectif de notoriété et de promotion de mes formations, mais je partage, on va dire, entre 80 et 90% de mon savoir gratuitement. Et c'est dans un but, effectivement, de promouvoir cette activité, que de plus en plus de gens puissent se lancer et que peut-être un jour, on soit amené à intervenir dans des écoles, à avoir des vrais cursus bien développés. J'y crois pas trop, personnellement, mais en tout cas, comme je suis un passionné à la fois de la formation, parce que j'en ai fait, ça fait 10 ans, moi, que je bosse plus ou moins près dans le milieu de la formation, et que je suis passionné de podcast, si tu veux, je pourrais le faire sans compter. Donc je partage énormément, parce que c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement.
Donc, concrètement, il n'y a pas d'école. En revanche, on peut trouver des formations, effectivement, par l'intermédiaire de podcasteurs, comme toi, effectivement, qui ont déjà réussi dans le domaine du podcast. Et encore, la réussite, je dis toujours, c'est tout relatif, parce que on n'est pas forcément milliardaire avec en exerçant ce métier-là. Si on veut vraiment se former au métier de podcasteur, je parle pas que de ta formation, je parle des formations en général. Tu vois, j'ai lu par exemple le bouquin de Safia Gourari. J'ai lu pas mal de choses. Je me suis entretenu aussi avec Philippe Chapeau, que tu vas recevoir d'ailleurs très prochainement. Je vais être content encore de pouvoir l'écouter à nouveau. Combien ça coûte, grosso modo, une formation en moyenne en France, si on veut effectivement se lancer dans ce métier-là? C'est quoi le coût?
Alors, l'avantage, c'est que tu as tous les prix. Comme c'est un métier qui est assez morcelé encore et qui n'est pas encore très, très bien structuré, et sur lequel il n'y a pas de diplôme, qu'on se le dise, tu vas pouvoir retrouver des formations à très bas coût sur les grosses plateformes, tu sais, américaines de formation. Donc, je pense à Udemy ou Coursera, par exemple, où tu as certains formateurs. Là, ça va être très orienté sur vraiment la création d'un podcast. On ne va pas forcément parler du succès d'un podcast, du lancement d'un podcast, de développer ses audiences ou même de le commercialiser et d'en vivre. Mais tu vas pouvoir trouver des formations à moins de 100 euros de formateurs qui sont très qualis. Moi, j'ai commencé comme ça parce que on te prend par la main et c'est des très bons formateurs. Quand même, c'est un gage de qualité, ces plateformes-là. Et il existe aussi des petites formations gratuites. Donc, pour commencer, je pense que c'est quelque chose de bien. Le désavantage, c'est qu'il n'y a pas l'effet de groupe que tu peux retrouver dans une formation interactive. Tu n'as pas un formateur qui te suit et qui te conseille. Et c'est là que si tu augmentes un petit peu le prix, notamment nous, chez nous, les formations, les prix d'entrée se situent autour de 300 euros. Et là, on va commencer à prendre un petit peu plus par la main, à nous, en tant que formateurs, donner des retours et à corriger peut-être certaines choses, donner un peu notre avis si on nous le demande. Donc, c'est à partir de ces prix-là. Et après, pour des formations encore plus spécifiques, vraiment qui vont s'adresser à des gens qui se sont déjà lancés, qui ont déjà un podcast, qui veulent en vivre, qui veulent développer leurs audiences, là, on va s'approcher plutôt du millier d'euros pour ces formations. Il me semble qu'il y a des formations aussi CPF qui vont avoir, tu vois, qui vont avoir des prix un peu supérieurs, autour de 1 500-2 000 euros. Et des formations qui s'adressent plus aux entreprises, où là, on fait vraiment du sur-mesure, on personnalise. Et là, effectivement, là, ça va être plusieurs milliers d'euros. Mais pour du particulier, pour la personne qui souhaite se lancer, on peut vraiment déjà avoir, je pense, en accessible 95% du contenu qui est disponible à 500 euros environ, tu vois. Et moi, je recommande même honnêtement pour les gens qui ont des petits budgets d'aller se tourner vers des petites formations, ou même pour ceux qui n'ont pas du tout d'argent à mettre. Il y a beaucoup de contenu sur YouTube et de gens qui partagent gratuitement, un peu comme moi. Alors moi, c'est plutôt sur LinkedIn, mais on peut retrouver du contenu ici et là.
Ouais, donc si je suis bien en fait ta pensée, concrètement, quelqu'un qui veut créer son podcast pour promouvoir sa marque ou parler de son activité, mais qui ne veut pas forcément le monétiser et en vivre, ou c'est vraiment un appel à l'action plus par rapport à son activité, il va trouver des formations gratuites ou des informations sur YouTube ou ailleurs, ou des petites formations via des organismes comme Udemy ou des choses comme ça en fait. En revanche, quelqu'un qui veut vivre de son podcast, qui veut vraiment en faire un métier à temps plein, faut compter entre 500 et 1000 euros pour démarrer, et bien au-delà effectivement si on veut pouvoir monétiser correctement et gagner sa vie. C'est bien ça ?
Alors, tu fais bien de le découper comme ça, c'est intéressant d'avoir ton retour. Ce que j'ajoute en plus, c'est aussi le niveau d'accompagnement que souhaite la personne. Il y a des personnes qui sont très autonomes, très autodidactes et qui ont l'habitude de farfouiller sur YouTube, de farfouiller sur les plateformes de contenu gratuites et qui vont très bien s'en sortir et qui ont l'habitude, en fait, de se former un petit peu elles-mêmes et qui vont apprendre beaucoup plus efficacement en fait en s'enrichissant de plein de méthodes. Et il y a d'autres types de personnalités, des gens peut-être qui ont besoin d'être un peu plus pris par la main ou des gens qui ont tout simplement envie d'avoir un retour en fait. Des gens qui sont autonomes mais qui ont envie de dire bah, « Tiens, mais est-ce que je fais c'est bien ? Est-ce que ce que je fais ça va marcher ? Est-ce que je le fais dans le bon ordre ?» Donc c'est peut-être besoin pour certains d'être rassuré, ça peut aussi, mais moi je le découpe comme ça, tu vois, c'est le niveau d'accompagnement. Et tu vois, on parlait un petit peu des entreprises. Une entreprise, quand elle lance un projet, elle a besoin que ça marche, elle a besoin que ça soit efficace, donc effectivement elle va investir un budget non négligeable pour avoir ce degré d'accompagnement, ce degré aussi de qualité, d'expertise. Peut-être un indépendant, il va peut-être un petit peu plus tâtonner et comparer plusieurs méthodes. Moi, je le découperais plutôt comme ça.
D'accord. Puisqu'on parle de podcast et de découverte, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des conditions d'accès particulières pour pouvoir faire du podcast ? Est-ce qu'il y a des stages qui sont possibles ? Quelqu'un qui veut découvrir le métier, est-ce qu'il peut facilement trouver un stage ?
Alors, ce que je pourrais recommander, c'est pourquoi pas d'essayer de travailler en radio. L'avantage, c'est que ça va être sur des métiers très particuliers et je pense qu'il y a un gros apport à passer du temps avec un ingénieur du son, avec un directeur de rédaction pour vraiment rentrer en profondeur sur ce métier-là, et ça va être très qualitatif. Le désavantage, c'est que généralement, ça va être très spécialisé et que on va avoir du mal à voir les autres départements ou les autres métiers qui peuvent graviter un petit peu autour. Moi, sur le podcast, tu vois, ça fait plusieurs années que j'en fais, j'ai 1000 métiers en fait à l'intérieur. Et c'est ça qui est un peu dur à des fois à cerner, c'est qu'à la fois je suis commercial pour trouver des sponsors, en même temps je suis community manager pour créer du contenu sur les réseaux sociaux et gérer la communauté et faire grossir l'audience du podcast. Je suis aussi un peu monteur vidéo parce qu'on fait pas mal de petites vidéos autour. Je suis ingénieur son, je suis intervieweur, je suis directeur de rédaction parce que c'est moi qui fais tout le planning avec mes équipes sur ça. Donc ça, c'est plus particulier. Et donc, travailler avec moi en stage d'exploration ou travailler avec des podcasteurs indépendants qui ont un peu ce niveau d'expertise, ça va être plus rare parce que généralement, des petites entreprises, on n'a pas forcément le temps, tu vois, de vraiment accompagner quelqu'un. Mais selon moi, alors après, c'est ma personnalité parce que moi, j'ai besoin de toucher à tout découvrir. J'ai besoin de m'enrichir en fait de plusieurs points de vue aussi. Ça serait le plus valorisant. Tu vas travailler dans une petite entreprise. Alors, là, je recommande peut-être les studios de production de podcasts, il y en a plein qui font du super bon boulot et il me semble que vous allez en découvrir aussi dans votre série. Oui. Ça, c'est super bien parce que c'est dans des entreprises à taille humaine et il y a peut-être plusieurs métiers qui sont disponibles. Tu vois, à l'inverse d'une grosse radio où là, il y a plusieurs centaines de personnes, c'est clair, ouais. Et c'est un peu cloisonné. C'est normal, mais c'est aussi la conséquence de quelque chose, d'un projet qui marche bien, d'une entreprise qui marche bien. Donc voilà, tu as plusieurs options. Les studios de production, je pense très intéressant, les grosses radios ou les podcasteurs indépendants. Je pense à ça, désolé si j'en oublie, mais en tout cas, c'est peut-être les recommandations pour les gens qui voudraient découvrir ces métiers-là. Après, nous, tu vois, typiquement pour les jeunes, tous les ans, je prends deux personnes en stage ou en alternance. Donc, on a effectivement beaucoup de gens qui postulent. Et c'est généralement, nous, en tout cas chez nous, on accepte des gens qui ont déjà un petit peu un pied dans la création de contenu, de manière générale. Ça va pas forcément être des gens qui ont déjà fait du podcast, mais Tu vois, là, notre prochaine alternante, elle a un compte TikTok et Instagram où elle partage beaucoup de vidéos. Bon, bah, cet état d'esprit de je crée du contenu, je m'intéresse à comment, quels sont les contenus qui marchent, bah, ça m'a touché personnellement. Et je me suis dit, bah, tiens, moi, j'ai un gros besoin de création de contenu avec Extraterrien et avec Extra Bootcamp. Du coup, c'était un profil parfait. Et je sais qu'elle s'intéresse à la création audio. Donc, c'était vraiment un plus. Donc, s'il y a peut-être des jeunes ou des personnes en reconversion qui nous écoutent, essayez de commencer un peu par vous-même, de faire votre petite création. C'est toujours, voilà, quand on va chercher un stage ou quand on va chercher à avoir une expérience professionnelle, c'est toujours un plus qui va se démarquer que uniquement des expériences, on va dire, très scolaires. J'aime bien, moi, les gens qui lancent des petits projets pour eux-mêmes et qui s'intéressent à la création de contenu de manière générale.
On a bien compris qu'effectivement, bah, du coup, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de titre professionnel non plus au métier de podcasteur actuellement. On exerce souvent en autodidacte, hein, puisqu'il n'y a pas d'école formant à ce métier. En revanche, au niveau du métier par lui-même, est-ce que c'est un métier qui bouge? Est-ce qu'on a besoin effectivement de se former en permanence par rapport à ce métier de podcasteur?
Je pense. Alors, ma vision des choses, c'est que quel que soit le métier, on devrait toujours être en train de se former et de se tenir au courant. Dans le métier du podcast, encore plus, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a un phénomène de contexte un petit peu général. C'est que aujourd'hui en France, alors, en fonction des études et des chiffres, il n'y a que entre 20 et 25% des gens qui écoutent un podcast par mois au minimum. Ouais, ce chiffre, il grossit fortement. Du coup, le podcast est en pleine expansion. Du coup, il y a des nouveaux besoins, il y a des nouveaux podcasts qui se créent, il y a des nouvelles méthodologies. Et donc, pour se tenir au courant et voir un petit peu ce qui marche, c'est très important. Aussi, il y a une grosse bataille au niveau économique, au niveau des GAFAM, sur le monde du podcast. Spotify a sa plateforme de podcast, Apple, Amazon, désolé de leur faire leur promo, Google aussi, YouTube. Et ces entreprises-là, ces entreprises de la tech, évoluent à une vitesse folle et créent des nouvelles fonctionnalités tout le temps. Tu vois, la même TikTok, qui était connue pour être une plateforme vidéo, a lancé il y a quelques semaines un module spécial pour les podcasteurs américains pour créer du contenu directement sur TikTok. Donc, si tu veux, ça avance tellement vite face à ces GAFAM qui, malheureusement, guident un petit peu le monde, qu'on est obligé, pour jouer leur jeu, de se tenir au courant. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de jouer leur jeu? C'est parce que aujourd'hui, ces acteurs-là sont les acteurs principaux de la distribution des podcasts. 90% des gens qui écoutent Extraterrien, ou même le contenu de tous les podcasteurs, écoutent via ces applications, via les applications de ces GAFAM. Et du coup, bah, pour toucher son audience, on est obligé de jouer leur jeu. On est obligé de leur apporter du contenu gratuit.
C'est ça.
Et du coup, on est obligé de se tenir au courant, de jouer un petit peu leur code. Pareil pour tout ce qui est création de contenu autour pour la promotion des podcasts. Hein. Je vais pas les citer, mais tous les réseaux sociaux. Donc ça, c'est des choses dans lesquelles on est obligé de se maintenir au courant. L'autre chose, c'est la dernière chose, je pense, c'est aussi pour soi-même. Le monde du podcast, ça reste quand même un monde de créateurs. Mmh. Et je pense que quand on est un créateur, pour faire booster sa créativité, pour toujours essayer d'aller de l'avant et de créer des choses nouvelles qui vont toujours essayer de plaire, il faut tenir au courant de qu'est-ce que les auditeurs aiment, parce que l'audience aussi évolue, vu que les plateformes évoluent, les contenus évoluent, les audiences évoluent, et donc soi-même, il faut se tenir au courant, il faut se tenir un petit peu informé. Et je pense qu'à titre personnel, ça fait du bien aussi de se renouveler, de tester des nouvelles choses. Pourquoi? Ben moi, typiquement, avec Extraterrien, ça fait 4 ans et demi que ça dure. Si je teste des nouveaux formats, parce que au bout d'un moment, 4 ans et demi, le cerveau humain, il a besoin de se renouveler, quoi.
C'est ça.
Donc, c'est un petit peu ma vision des choses sur le pourquoi de il faut se renouveler sans cesse.
Mais écoute, Barthélémy, je te remercie pour tous ces nombreux conseils et puis cet éclairage sur la partie formation d'un métier presque parfait. Un vrai plaisir d'avoir pu échanger avec toi. Merci à toi.
Plaisir partagé. Merci beaucoup pour tes questions qui étaient toutes très pertinentes.
Eh bien, écoute, on aura l'occasion de se rencontrer rapidement sur Paris, je pense. Merci, Barthélémy. À bientôt.
Salut, à bientôt.
On va parler maintenant représentativité et mixité, et on va commencer avec la thématique homme-femme avec vous, du coup, Élise et Olivier. Alors, est-ce que c'est un métier mixte déjà? Est-ce qu'il y a des femmes qui exercent ce métier, ou est-ce que ce sont que des hommes? Quelle est la proportion? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui, c'est un métier qui est exercé par des hommes et par des femmes, mais à majorité d'hommes, à 63%. 63% des podcasteurs sont des hommes. C'est une représentation qui est à mettre en regard des thématiques qui sont abordées dans les podcasts. C'est-à-dire que dans les thématiques qui vont être business, politique, entrepreneuriat, enfin toutes ces questions-là, ça va être finance aussi, ça va être plus des hommes qui vont animer ce genre de podcast, alors que pour toutes les thématiques société, vie quotidienne, famille, ça va être des femmes. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est le reflet de notre société. En fait, je trouve que l'écosystème du podcast, dans sa représentativité entre les hommes et les femmes, est vraiment le reflet de notre société.
Je confirme, effectivement. En revanche, moi, ce dont je m'aperçois, en fait, sur les podcasts qui sont créés aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui cartonnent, clairement, en termes de podcasting. Mais il est vrai que les podcasts qui sont créés par des podcasteuses, en général, sont plus, effectivement, sur des éléments de société. Et effectivement, on va retrouver les hommes plus sur de la finance, sur du business, de l'entreprise, de l'interview.
Après, je sais pas si tu regardes vraiment les classements, typiquement sur Apple Podcasts, si t'as plus de femmes. Enfin, c'est pas le cas. Il y a des femmes qui cartonnent, mais il y a aussi énormément d'hommes qui cartonnent et il y a plus d'hommes qui arrivent à en vivre que de femmes.
Ouais, là, je suis d'accord avec toi. C'est clair.
C'est rigolo parce que j'aurais justement imaginé le contraire, qu'il y avait plus de femmes qui faisaient du podcast. Alors, je sais pas pourquoi, mais je m'imaginais ça, tu vois. Et donc, c'est effectivement bon de savoir qu'il y a plus, enfin, il y a quand même une majorité d'hommes encore aujourd'hui et que bon, on renversera peut-être la vapeur à un moment, hein, mais.
Je pense que c'est ton expérience d'auditrice qui va peut-être te faire penser ça parce que les femmes écoutent les femmes et les hommes écoutent les hommes. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression, quand on est une femme, d'entendre que des femmes, parce qu'en fait, on va se rapprocher de ces voix-là qui vont nous parler plus facilement, qui vont être moins brutes aussi, et qui vont être plus adaptées à notre fonctionnement. Et les hommes vont écouter plus facilement les hommes, et ça, c'est la société, hein, clairement. Les hommes écoutent les hommes n'écoutent pas les femmes.
Je vais te couper, je suis pas d'accord avec toi là-dessus, parce que la plupart des podcasts que j'écoute, c'est beaucoup des podcasts féminins.
Ah ouais.
Ouais, beaucoup plus que des podcasts masculins. Alors peut-être parce que ce que eux font en termes de podcasteurs, ça me ressemble peut-être un peu trop. Donc de ce fait, je découvre beaucoup plus de choses auprès de podcasts féminins que j'en découvre auprès de podcasts masculins actuellement.
Peut-être que tu es l'exception qui confirme la règle alors.
Oui, et puis bah voilà, c'est ma part féminine en fait qui parle certainement.
Oui, alors j'aurais plutôt dit que tu étais un homme moderne plutôt qu'un homme des cavernes, mais on prendra l'argument que tu souhaites. Très bien, merci. Du coup, en termes d'accessibilité au métier, est-ce que c'est discriminant d'être une femme pour y arriver? Est-ce qu'il y a des adaptations à apporter ou des différences dans la façon de fonctionnement?
Alors, je pense pas qu'il y ait une différence d'accessibilité pour les hommes et pour les femmes. En revanche, ce qui est compliqué à mesurer, c'est que podcasteur ou podcasteuse, c'est un métier très très nouveau. Donc en fait, c'est difficile de jauger. Et je pense que qu'on soit un homme ou une femme, les challenges vont être assez similaires. Notamment, ça va être de se rémunérer, et ça, qu'on soit un homme ou une femme, ça va être un peu compliqué au départ avec le podcast. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les hommes ont plus de facilité à aller décrocher des sponsors, par exemple, être rémunérés pour leur travail dans le podcast, que les femmes. Et ça, je vais me répéter, hein, mais c'est encore une répétition du schéma sociétal, en fait, parce que les femmes sont pas forcément éduquées de la même façon sur leur rapport à l'argent et sur leur rapport à la monétisation.
Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je préciserai juste une petite chose. Pour comprendre un peu mieux le métier de podcasting, clairement aujourd'hui on est un petit peu comme à l'ère des radios libres quand elles ont commencé à émettre, où à l'époque effectivement on avait des radios dans des garages, dans des greniers avec des antennes, où il n'y avait pas vraiment de réglementation, il n'y avait rien en fait autour de tout ça, et tout a dû être créé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est en fait le métier de podcasteur, c'est un métier fantastique, parce que c'est une réelle aventure, on démarre quelque chose de nouveau et qui commence à prendre en France, alors que dans d'autres territoires c'est déjà bien pris. Franchement, c'est vraiment un beau challenge que de se lancer dans ce métier-là.
Oui. Très bien. Dernière question sur la mixité homme-femme au niveau de la vie de famille, de la charge mentale. Est-ce que du coup, il y a une différence entre les hommes et les femmes pour avoir une vie de famille? Est-ce que vous arrivez à avoir une vie de famille, à trouver un équilibre vie pro, vie perso? Ou est-ce que c'est un métier extrêmement prenant où vous avez le temps de rien?
Je pense encore une fois que ça dépend énormément de comment on l'organise et comment on le fait. Moi, j'arrive à avoir une vie famille et je pense que ça n'a rien à voir avec le fait que je sois une femme ou avec un homme. Ça a à voir avec ma vision de la famille aussi et de mon métier, qui est certes podcasteuse, mais qui a plusieurs casquettes. Et je sais pas, peut-être que vous en parlerez ou qu'on en parlera après, mais podcasteuse, pour moi, m'empêche pas d'avoir une vie de famille et ne change rien à ma charge mentale. J'aurais pu être autre chose, que je pense que ça aurait été la même chose.
Pour ma part, j'ai pas de souci avec ma vie de famille. Alors, le podcast, faut savoir quand même que ça prend du temps. Les gens pensent souvent que un micro et un ordinateur, c'est bon. Et on peut lancer son podcast. Non, c'est pas si simple que ça. Un épisode de podcast, ça peut facilement prendre 7 heures à peu près au total, hein, pour pouvoir avoir quelque chose de, un produit fini. Après, si j'ai choisi, moi, ce métier-là, c'est aussi pour préserver ma vie de famille et pour préserver du temps également pour moi. Le podcast, aujourd'hui, on peut en vivre de différentes manières. Peut-être que tu nous poseras la question par la suite. Mais chacun a une façon de monétiser son travail. Chacun a une approche différente, en fait, du métier de podcasteur, puisqu'il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment d'école. Enfin, ça, je pense que Bart nous l'a bien fait comprendre quand on l'a eu en entretien. Il y a des formations à droite, à gauche, par des podcasteurs qui vivent aujourd'hui de leur métier, mais des formations officielles, des écoles, il n'y en a pas aujourd'hui.
Très bien. Est-ce qu'il y a du coup un équivalent pour le métier de podcasteur? On a parlé de podcasteuse, on ne dit pas du coup podcastrice.
Bah, c'est moche en fait. Podcastrice, c'est pas très beau. Moi, j'aime pas la sonorité justement cast. Triste, ça fait voilà, c'est pas fou. Donc non, c'est podcasteuse.
Eh bien, merci beaucoup pour cette catégorie mixité homme-femme. On passe sans plus attendre à la suivante, qui est la différence entre le salariat et l'indépendance. Est-ce que c'est un métier qui s'exerce en salariat? Est-ce que c'est un métier qui s'exerce en indépendant? Quelles sont les répartitions? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors les répartitions, j'ai pas de chiffres très précis. En revanche, je sais de sources d'expérience que les podcasteurs et les podcasteuses sont majoritairement indépendants et pas salariés. Pour déjà la raison que podcasteuse n'est pas encore un métier qui est spécialement reconnu en entreprise. Les entreprises cherchent pas encore des podcasteurs ou des podcasteuses. Elles vont chercher des créateurs ou des créatrices de contenu pour un élément marketing. C'est pour ça. Enfin, je pense que ça va être important aussi de définir qu'est-ce qu'un podcast aussi et à quelle visée on va les utiliser. C'est-à-dire qu'il y a le podcast. Moi, par exemple, j'ai un podcast qui s'appelle Prenons un café, qui est un podcast qui parle de parentalité et qui a une visée informative, qui est vraiment une visée de libérer la parole et qui est quelque chose de propre et qui est mon podcast. Ce podcast, j'arrive à le monétiser via le sponsor. C'est comme ça que ça me rapporte de l'argent. Maintenant, les entreprises utilisent le podcast comme outil marketing, c'est-à-dire qu'elles vont aller se vendre, faire de la publicité via le podcast. Et dans ces cas-là, les entreprises qui vont recruter en interne ou en externe aussi, des freelances, vont recruter des podcasteurs ou des podcasteuses pour créer du contenu. Donc, il y a vraiment cette ambivalence entre les deux façons de faire. Enfin, il y a d'autres encore façons de faire du podcast aussi. Il y a le podcast en reportage et là, ça va être des journalistes qui vont faire du podcast. Donc, il y a vraiment plusieurs intitulés pour un même métier.
En tout cas, moi, j'ai jamais vu passer une seule annonce d'offre d'emploi pour un podcasteur ou une podcasteuse en CDI aujourd'hui. Effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a parfois des journalistes, effectivement, qui vont créer des podcasts. En général, ça reste quand même des pigistes. Hein, je sais pas si tu es d'accord avec moi.
Oui, je pense, oui.
Ou des personnes qui on a signé un contrat pour faire un reportage sur telle et telle chose. Et c'est pas franchement là-dessus qu'on peut gagner de l'argent, en fait, correctement au niveau podcast.
Au niveau du coup de l'indépendance, donc on a vu que c'était un métier à part entière d'entrepreneur également en plus de créateur de contenu. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir se lancer dans le métier en termes d'investissement, que ça soit le montant d'investissement à peu près, on va dire de base, le matériel nécessaire, les formations, ça chiffre à combien pour pouvoir se lancer dans le podcast?
Je vais peut-être commencer si tu veux bien pour changer un peu. Mm-hmm. En fait, ça dépend de ce qu'on veut en faire de son podcast. si on veut effectivement créer du contenu audio pour soi-même, pour son entreprise, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'investissements. Un simple micro USB branché sur un PC peut permettre de déjà commencer à faire du podcast. Donc là, on va être sur quoi? Sur une centaine d'euros maximum pour un micro. Il y a des logiciels de montage qui sont gratuits également. Donc pour lancer son propre podcast, c'est pas forcément un gros investissement. Après, si on veut vraiment aller dans la qualité, le podcast, c'est du son. Donc si on veut avoir un bon son, c'est de l'écoute, c'est comme une vidéo où il y a un son de merde, elle a beaucoup moins de chances d'être vue qu'une vidéo avec un bon son. Le podcast, il y a que le son, hein. Il n'y a pas l'image, il n'y a pas la vidéo derrière. Donc il faut avoir un son de qualité. Sur un studio, par exemple, comme celui-ci, où on est en train d'enregistrer, grosso modo, on est sur un investissement de, 700-800 euros à peu près.
Oui, non, mais ça ne demande pas un investissement fou. Moi, j'ai commencé en achetant un micro bidirectionnel qui coûtait à l'époque moins de 200 euros. Et c'est tout. J'avais déjà l'ordinateur, j'avais déjà tout ce qui me servait à faire la post-prod. Et puis après, les hébergements de podcasts, il y en a des gratuits. Des hébergeurs de podcasts, ouais. Il y en a des payants. C'est après un choix, c'est un choix à faire en fonction de ses besoins. En fonction de si on veut monétiser ou pas, mais je vais pas non plus rentrer forcément dans le détail. Le podcast en fait peut se faire avec très peu de moyens, en tout cas très peu d'argent dépensé.
Même avec un smartphone, on peut déjà commencer à faire un podcast.
Oui, surtout qu'aujourd'hui, notamment les iPhones. Après, je connais pas les autres, mais ouais. Ils ont une qualité de son sur les dictaphones qui est assez folle. Donc, en fait, on peut déjà faire du podcast avec ça. Il y a des gens, des journalistes même, qui font du micro-trottoir avec leur téléphone. Donc, en fait, c'est possible de le faire. C'est sûr que ce sera toujours moins bien qu'un micro, mais en tout cas pour débuter, ça le fait et vraiment de toute façon personne n'a jamais réussi quelque chose du premier coup en étant parfait. Donc fait vaut mieux que parfait. Donc si vous n'avez pas forcément les moyens, que vous avez un smartphone et que vous voulez vraiment vous lancer, bah allez-y en fait.
Après bon voilà, on va pas faire de la pub, mais c'est vrai que chez Zoom ils ont quand même pas mal de bon matériel pour démarrer. Moi j'ai toujours mon petit micro H1N que tu dois connaître certainement, Élise, micro que j'ai toujours avec moi qui me permet parfois effectivement de capter une conversation, d'enregistrer ou d'interviewer quelqu'un en direct quoi. Mmh. Voilà. Et après comme tu disais sur les smartphones, aujourd'hui on peut même brancher directement un micro sur son smartphone. Ouais. Il y a une petite application qui est sympa, donc pour les podcasteurs, on va leur donner, ça s'appelle Voice Recorder, qui permet effectivement d'enregistrer directement votre podcast et même de le monter, si on veut, à partir de son smartphone.
Maintenant, on va aborder la catégorie junior versus senior. Dans cette catégorie, on va parler argent. On va parler argent, quelle est la différence entre quelqu'un qui vient de se lancer et quelqu'un qui a plus de bouteilles? Combien ça gagne? Est-ce que on peut en vivre? Et quelles sont les perspectives d'évolution? L'idée, du coup, c'est de discuter un petit peu de ça ensemble. Dites-moi tout.
Ok. Ben moi, je peux commencer avec la façon de gagner de l'argent, qui va être la sponsorisation de podcast. Parce qu'il y a vraiment plusieurs façons de gagner de l'argent avec du podcast. Le sponsoring, ça va être de la diffusion de messages publicitaires en pré-roll, en post-roll ou en mid-roll. Le pré-roll, post-roll, mid-roll, c'est avant l'épisode, après l'épisode ou au milieu de l'épisode. En fait, plus on a d'audience, plus on a d'écoute, ben plus on va vendre, parce qu'en fait, on vend le sponsoring au CPM, c'est le coût par 1000. Donc on vend par 1000 impressions. Le prix du CPM, ça c'est propre. On le met un peu comme on veut. En moyenne, il est à 60 euros du CPM. Donc après, en fonction des audiences que vous avez, vous calculez. Les plus gros podcasteurs vont augmenter leur CPM parce qu'en fait, ça va être un produit plus luxe. C'est vraiment entre guillemets, hein, vraiment, ça va être un... l'audience va être tellement plus grande et l'impact tellement plus fort que le CPM va automatiquement augmenter et les audiences augmentant aussi, forcément, ça va coûter beaucoup plus d'argent. Donc le podcasteur ou la podcasteuse va être rémunéré plus largement. Moi, je vais en toute transparence, mon CPM il est à 60 euros. Je me suis alignée à mon hébergeur qui me propose aussi une régie publicitaire.
D'accord.
Donc c'est pour ça que je fais mon CPM à 60 euros et mes audiences, et je vais peut les dire en transparence parce que j'ai une newsletter dans laquelle je les expose, mais mes audiences sont entre 30 et 40 000 par mois. Donc on calcule à peu près combien ça peut nous rapporter si on arrive à sponsoriser tous les mois. C'est sûr que c'est plus facile de se dégager un plus gros revenu quand on a plus d'audience. Quand on a 500 audiences et qu'on veut vendre au CPM, c'est pas très avantageux. Et dans ces cas-là, on peut le vendre différemment avec du forfait. Parce que on peut être un podcast aussi très très niché qui va parler à une cible très spécifique. Donc en fait, voilà, c'est ça pour dire que c'est assez aléatoire en fonction du podcast, de son taux d'audience. Et une audience, ça se construit avec le temps. Donc forcément, plus on va avoir d'années d'expérience de podcast, ben plus il va y avoir d'audience. Plus on a d'épisodes sur notre podcast, plus il y a d'écoute aussi. Parce que les personnes qui vont découvrir notre podcast au 50e épisode, s'ils l'aiment, ben ils vont peut-être écouter les 50 précédents. Donc ça va faire, c'est exponentiel en fait. On peut pas perdre en audience sur un podcast. Enfin, c'est toujours sur une montée. Alors si quand on publie pas d'épisodes, bien sûr que les audiences baissent, mais c'est quand même assez compliqué. Enfin, c'est très peu probable de baisser en audience. Donc plus on va publier, plus on va faire grandir son podcast, plus on va communiquer autour, plus on va avoir une possibilité de rémunération avec le sponsoring.
Après, je suis d'accord avec toi, il faut de la régularité dans les publications pour arriver à obtenir pas mal d'audience et augmenter son audience au niveau des podcasts. J'avais regardé des statistiques, puisque je travaille également avec Philippe Chapeau, Podcast Magazine, que tu dois connaître certainement. Et lors du dernier podcast tour qui a eu lieu à Lille au mois de mai, c'est le 31 mai de cette année, Philippe nous faisait part de statistiques où on était complètement effarés. C'est-à-dire qu'un podcast aujourd'hui, un épisode de podcast qui fait 40 écoutes, fait partie des 50% des meilleurs épisodes de podcast en France. Il y a très peu en fait de podcasteurs qui durent également dans le temps. C'est ce qu'on appelle le podcast. Je me souviens plus du nom, mais voilà, c'est grosso modo, c'est le nom, je l'ai plus en tête, mais il y a beaucoup de podcasteurs qui vont s'arrêter au bout du 10e, 11e ou 12e épisode et qui n'iront pas plus loin en fait, parce que c'est très compliqué en fait de créer une audience et c'est très compliqué de monétiser en fait un podcast. Alors, je suis content qu'Élise arrive déjà à en vivre. Moi, j'en suis pas encore là. Moi, j'arrive pas à en vivre du tout de mon podcast. Je travaille sur deux émissions, hein, comme disait ma grand-mère, où là, bah, effectivement, c'est plus une émission grand public, hein, qui s'adresse un peu à tout le monde, où là, bah, je vais chercher du sponsoring, un peu différemment de ce que toi tu fais, c'est-à-dire que je vais pas partir forcément sur du coût 1000. Le CPM, je le mets, ce sera un plus pour moi. Ce que je veux vraiment, c'est chercher un sponsor, c'est vendre l'épisode. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'épisode lui appartient, donc je vais vendre un épisode. Je ne sais pas encore le montant, ça va dépendre un petit peu de comment ça prend d'ici deux, trois mois, comme disait ma grand-mère. Mais l'objectif, c'est qu'il achète l'épisode lui appartient à vie. Donc, clairement, c'est pas de se dire, voilà, suivant le nombre d'écoutes, je vais payer plus ou moins mensuellement. Non, c'est achète l'épisode et l'épisode, il t'appartient, voilà, mais c'est autant l'épisode, quoi.
Alors, quand tu dis t'appartient, c'est-à-dire en termes de publicité?
En termes de publicité, c'est-à-dire que si je prends par exemple, comme disait ma grand-mère, si dans 5 ans, il y a quelqu'un qui écoute l'épisode numéro 10, 12, 13 ou 14 parce qu'il vient de découvrir la série et qu'il a adoré et qu'il revient en arrière, hein, ce que disait Élise en fait, hein, on peut avoir qu'une audience exponentielle, ce sera tout bénéfique en fait pour le sponsor.
Mais pas pour le podcasteur.
Pas pour le podcasteur, je suis d'accord avec toi, mais en revanche, ça permet aussi de pouvoir monétiser un peu plus rapidement et ça permet aussi surtout de faire rentrer du cash quand même très très vite en fait sur une saison complète, parce qu'on a besoin aussi d'en vivre, on a besoin aussi de pouvoir payer nos factures comme tout le monde, il y a pas photo. Et sur l'autre partie en fait, sur le grill, là c'est plus ce que j'appelle moi du marketing audio en fait, où là je propose aux entreprises de communiquer différemment à travers un podcast qui leur est dédié. En fait, ils sont pas invités sur un podcast, c'est vraiment leur podcast. C'est sous forme d'émission pour rendre la chose un peu plus conviviale, mais ils payent en fait pour ça. Ils payent pour ça, ils vont obtenir effectivement pas mal d'outils, pas mal de conseils pour pouvoir diffuser leur podcast auprès de leur clientèle, mais ils payent comme ils paieraient une plaquette commerciale, comme ils paieraient une émission de radio, comme ils paieraient une vidéo, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est aussi un outil marketing fantastique.
Et puis ça fonctionne bien parce que du coup, effectivement, je suis passée sur le grill dans ton émission. Ouais. Et pas plus tard que ce matin, j'avais un message d'une personne qui l'a écouté, qui a dit que ça permettait de bien comprendre le métier sans s'embêter à aller chercher des informations à droite à gauche sur le net. Donc ça permet de tout centraliser et c'est une bonne com.
Merci.
Et j'ai eu une émission qui fonctionnait du même, avec le même système. C'était la Maison du Père Nolil, qui était un calendrier de l'Avent audio qui mettait en avant les commerçants lillois pendant la période de Noël. Donc vraiment l'idée c'était de un épisode par jour de 5 minutes pour mettre en avant un commerçant, pour inciter les consommateurs à consommer le local pendant la période de Noël. La première saison je l'ai faite bénévolement, c'était pendant le Covid. L'idée c'était vraiment de les mettre en avant pendant une période qui était compliquée, et la deuxième saison je l'ai intégralement monétisée, c'est-à-dire que chaque participant a payé sa place sur la maison du Père Nolil, et ça a hyper bien fonctionné.
Comme quoi, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Élise tout à l'heure. Il y a plein, en fait, il y a pas un modèle de podcast. Il y a pas le podcast, c'est pas un métier bien défini, quoi. Il y a, c'est en perpétuelle croissance, en perpétuelle évolution, et il y a plein de façons, en fait, de faire du podcast.
Exactement. Et quand on réalise une émission de podcast pour une entreprise, là, on va parler au forfait. C'est-à-dire qu'on va leur proposer une émission. Donc, il y a tout ce qui va être autour du design de l'émission, de l'idée, de l'écriture du synopsis, du format, de tout ce qu'il y a autour, donc la création pure de l'émission. Il va y avoir tout ce qui va être autour du tournage de l'émission, si c'est de l'interview, s'il y a du casting à faire. Enfin voilà, tout ça, c'est un forfait à proposer à une entreprise. Et après, au nombre d'épisodes, voilà. Donc, il va être complètement différent, puisque là, le podcast aura une visée purement marketing. Donc, on va être sur de la création de contenu pur. Et comme des personnes vont proposer des articles de blog, nous, on va proposer du podcast. Et donc, ça se rémunère d'une façon différente encore.
Et après, c'est clair qu'en termes de coûts par rapport aux épisodes, forcément, quand on cherche à monétiser, ce qui est mon cas aujourd'hui, on se renseigne aussi un peu, on voit un petit peu ce que les uns et les autres vendent au niveau tarif. Les tarifs les plus bas que j'ai trouvés pour des épisodes de 10 à 15 minutes, c'est entre 500 et 800 euros pour un épisode. Et là, dernièrement, j'ai vu c'est une grosse boîte de prod, par contre, qui fait également... qui va s'occuper de balancer sur les réseaux sociaux, d'alimenter, etc. Il demande quand même 20 000 euros pour 10 épisodes. Donc en fait, le podcast, c'est tellement... Pourquoi je parle de cette différence-là ? C'est suivant l'approche de chacun et les services qu'il va proposer. En fait, il n'y a pas un prix établi, quoi. On sait qu'une bière sur l'île, ça vaut entre 4 et 10 euros suivant l'endroit où on va aller la boire. Ben, un podcast aujourd'hui, un épisode de podcast, ça vaut minimum minimum 500 euros. Ça, c'est vraiment le mini de chez mini, mais ça peut monter jusqu'à 2000 euros pour un épisode.
Mais ça dépend de la structure qu'il a produit. Si c'est quelqu'un en freelance et dont les charges sont limitées, forcément le prix va être plus bas. Si on fait appel à un studio qui a énormément de charges en termes de personnel, en termes de matériel, enfin ça va être forcément différent. Mais c'est pour ça, enfin bien définir son envie en tant qu'entreprise de comment on veut communiquer, quel budget on veut mettre. Ça veut pas dire que les indépendants sont moins bons que les studios. Ça veut surtout dire que c'est une façon différente de travailler.
Ça marche. Je suppose que le prix aussi dépend du coup de la communauté, exactement, de l'audience, de la niche ou non niche sur laquelle vous êtes positionné.
Oui aussi, mais en fait quand on design une émission de rien pour une entreprise, ça presque ça compte pas, puisqu'on va leur livrer un produit fini. Et après c'est à eux derrière, sauf s'ils commandent un service de communication derrière. Mais après la communication et la vie du podcast, c'est eux qui la gèrent en fait, pas forcément le podcast.
D'accord. Donc le fait que ça soit toi qui sois animatrice du podcast, ça n'a aucune influence sur le prix, même si t'es une personne qui a une belle communauté.
Si, ça peut avoir une influence. En tout cas, je sais que parfois, il y a des entreprises pour lesquelles j'anime les podcasts. Ça ne change rien parce qu'en fait, on communique pas du tout sur mon nom, et c'est du podcast en interne. Donc en fait, peu importe que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Il y a d'autres podcasts où j'en ai fait un, notamment celui pour l'OMS, où le fait que ce soit moi, ça change énormément la chose, la donne, parce que c'est un podcast qui parle de parentalité, qui parle de santé mentale dans le milieu du travail. Donc le fait que ce soit moi qui l'anime, oui, ça change quelque chose, et oui, ça change quelque chose au prix. Mais ça dépend vraiment de ce qu'on en fait.
Tu parles de parentalité, justement, je viens de terminer une commande pour une association qui s'appelle Oasis Parentale, et où on a fait une série de 8 épisodes. Bah 8 épisodes, effectivement, c'est pas la même chose que de tourner un épisode, et puis bah là c'est orienté sur Oasis Parentale. Après ça dépend effectivement de ce que veut le client. Le client peut avoir envie que tu animes le podcast parce qu'il a besoin de se sentir rassuré, il a besoin qu'il y ait quelqu'un qui le guide en fait dans les questions, dans les réponses. Il y a des clients qui vont préférer effectivement faire ce qu'on appelle du narratif. Alors en fait, il y a une question d'entrée où ils vont expliquer effectivement les produits, services de l'entreprise ou de l'association. En fait, il y a plein de formats différents. Et il n'y a pas un montant fixe. C'est pas possible, voilà, de donner un montant fixe. Ça dépend du temps qu'on passe également. Ce que je disais tout à l'heure à Élise, une heure de, enfin, je sais pas pour toi si c'est comme ça, mais une heure d'émission, une petite heure d'enregistrement pour tirer 20 minutes à 30 minutes d'émission d'un podcast. Moi, ça me prend entre le storytelling, le déplacement, le montage du studio, le montage du podcast, la diffusion. Ça me prend une journée de travail.
Ça dépend de ce qu'on fait comme format. Parce qu'on parle du podcast, mais il n'y a pas un podcast.
C'est ça.
Il y a des podcasts de conversation, il y a des podcasts d'interview, il y a des podcasts en solo, il y a des podcasts qui racontent, je pense au podcast pour enfants par exemple, où on raconte des histoires, il y a des podcasts documentaires. Chacun a sa propre durée de vie, enfin de production. C'est-à-dire que moi, j'ai une émission dans laquelle je fais des podcasts qui durent 10 minutes et je suis en solo, ça me prend clairement pas une journée à faire.
Oui.
Ça me prend l'écriture, ça peut aller très vite parce que c'est mon domaine d'expertise. Ça prend l'enregistrement, le montage, et en vrai, en une demi-journée, c'est plié.
Oui,
donc, même parfois moins. Donc, ça dépend vraiment. Après, en conversation, moi, je fais beaucoup de conversations. La prise de rendez-vous, le casting, surtout, ça, c'est important. Ouais. Qui on va aller chercher? Pour quelles raisons on le fait? Ça prend énormément de temps, la prise de rendez-vous. Après, il y a des outils qui automatisent un peu tout ça, mais ça prend aussi du temps. Le déplacement, comme tu le disais, l'enregistrement et après la post-production. Moi, j'ai fait aussi le choix de déléguer beaucoup de montage et de mixage parce que ça me coûte moins d'argent de déléguer que de faire moi-même parce que y a des experts pour ça, des ingénieurs du son qui font ça très très bien, qui donnent un résultat plus qualitatif que moi, ce que je peux produire, et qui prennent moins de temps pour le faire. Donc voilà, enfin, c'est vraiment une question de choix. Après.
D'accord, merci. Et du coup, est-ce que beaucoup arrivent à en vivre? Est-ce que c'est compliqué d'en vivre? Est-ce qu'on sait un petit peu les tendances sur ce métier?
Beaucoup, non, clairement. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de podcasteurs qui en vivent. Il y en a, oui. Par contre, c'est possible. Il y en a qui le font. Et puis, en vivre, c'est un grand mot. Enfin, ça veut dire quoi? Chacun place le en vivre à un certain curseur.
C'est ça.
Est-ce que c'est quand on lance on devient podcasteur en complément d'une activité salariée, qu'on a une journée par semaine à dégager et qu'on gagne 200 euros par mois avec? Bah, peut-être que c'est déjà en vivre parce qu'on a une activité à côté. Donc, en fait, ça dépend vraiment de où on place son curseur. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui en vivent? Clairement non. Podcasteur, avant d'être un métier, c'est surtout une passion, en fait, je pense. Et il y a beaucoup de podcasteurs et de podcasteuses qui se lancent en ayant envie de créer du contenu pour défendre une cause ou pour avoir envie de parler d'un sujet qui les touche particulièrement. Et avant d'en vivre, en fait, moi, en tout cas, ça a été mon cas. Je me suis lancée dans le podcast parce que il y a 7 ans, quand je suis devenue mère, il y avait très peu de contenu sur la parentalité, qu'on ne nous disait pas tout, clairement.
Ça, c'est clair.
Que le mot postpartum était encore inconnu au bataillon.
Aïe, 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 oui.
Et aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup moins le cas grâce à des émissions, notamment de podcasts de parentalité, dont la mienne, en fait. Et moi, ça a été mon moteur principal. Ça a été de libérer la parole autour de la parentalité sans tabou ni complexe. Ça a été vraiment mon moteur premier avant d'en faire un métier. Surtout que Prenons un Café a vu le jour en parallèle d'un projet professionnel qui était l'ouverture d'un café family friendly sur la métropole de Lille. Depuis le Covid est passé par là. Mais l'objectif, c'était vraiment de développer une communauté et de faire connaître ce projet-là grâce au podcast. Donc, comme outil presque marketing, même si à l'époque, je le réfléchissais pas comme ça. Mais je suis pas devenue podcasteuse en me disant, en fait, je lance mon podcast et je vais gagner de l'argent avec. Il y a quand même très peu de gens qui le font de cette façon.
Je suis quelqu'un qui adore les réseaux, qui aime beaucoup animer les réseaux d'affaires, les clubs d'affaires, et je trouvais sympa de pouvoir transmettre des tips, des trucs, des astuces pour réseauter efficacement, pour développer son business, etc. J'ai créé ça sans forcément penser à le monétiser, en fait, monétiser à l'époque. Et je me suis pris au jeu, quoi. Je peux plus, quoi. Si demain je peux pas enregistrer un truc, si demain je peux pas monter du son, si je peux pas voir des gens, les découvrir, etc., mais je vais être malheureux, quoi. Donc j'ai besoin de vivre de ce podcast, parce que c'est au-delà d'un métier, en fait, c'est une passion, quoi, faut être clair, hein.
Et on devient vite addict, clairement. T'as raison quand tu dis ça. En tout cas, moi, c'est vraiment ce qui a changé dans ma vie depuis 4 ans. Ça fait un peu plus de 4 ans que je fais du podcast, c'est de rencontrer énormément de gens. Moi, ma vie a littéralement changé grâce au podcast. Au-delà de l'aspect financier, j'ai un réseau professionnel et personnel, ouais, qui s'est développé, mais d'une manière... En fait, je pense que Vraiment, je vois pas comment ça aurait pu être possible autrement. J'ai rencontré énormément de gens. Je sais que ce que je fais, en plus, c'est hyper gratifiant parce que ça aide concrètement des gens. Et ça, en tant que valeur personnelle, et quand on se regarde dans le miroir, c'est très agréable d'avoir ce genre de vision, de dire ah, « ben, en fait, j'ai sorti ça et en fait, une personne m'a envoyé un message et m'a dit que ça l'avait vachement aidé. » C'est génial, c'est hyper gratifiant au-delà de la dimension financière. Après, maintenant, la dimension financière est importante parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche et ça serait si chouette si c'était le cas, mais ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, se lancer dans le podcast comme ça, from scratch, de rien, en disant on va en vivre,
c'est compliqué.
C'est compliqué. C'est vraiment compliqué et on n'est pas là pour mentir, tu vois, pour dire, on est là pour dire la vérité. Oui, c'est compliqué. Maintenant,
mais
on peut
possible.
Utiliser, c'est possible et on peut utiliser le podcast à plein de plein de façons et devenir podcasteur au sein de son entreprise, au sein de plein de choses en fait, pour développer, pour gagner en réseau, c'est enfin le réseau, enfin ouais. Développer son réseau professionnel grâce au podcast, c'est extraordinaire. C'est un outil extrêmement puissant. Donc voilà quoi.
Donc si on veut conclure, si tu veux te lancer dans le métier de podcasteur en partant de rien, il faut tout de même avoir un projet bâti, concret et différenciant pour réussir à créer une communauté et derrière aller vendre ton projet.
Eh ben, c'est ça. C'est sûr que si tu parles de la reproduction des fourmis sur 52 épisodes, il y aura peut-être des gens intéressés, ça va être très 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 niché. Alors si c'est scientifique, ça peut être sympa, mais si c'est juste pour rire, effectivement, bah tu feras rire ton entourage et les gens qui te suivent un petit peu, mais ce sera difficile d'en vivre. En fait, quand tu crées un podcast, il faut savoir aussi à qui tu parles. Voilà. Il est fait pour qui le podcast? À qui tu parles? À qui tu t'adresses? Qu'est-ce que tu vas apporter aux personnes? Est-ce que t'as envie de leur apporter, t'as envie de quoi? De les distraire? Moi, c'est ce que je fais, comme disait ma grand-mère. T'as envie de leur permettre de se faire connaître? C'est ce que je fais avec Sur le Grill. T'as envie de donner des trucs, des astuces? C'est ce que je fais avec Réseau T'es Malin. Donc voilà, il y a une multitude de possibilités. Ça dépend du public à qui tu veux t'adresser.
C'est ça.
Et surtout, faire un podcast sans en parler à personne, ça sert à rien. Donc en fait, oui. Faire un podcast, oui, mais apprendre à communiquer surtout. Parce qu'en fait, vous allez lancer un podcast et peut-être que ben votre famille va écouter, vos amis vont écouter, mais ils vont écouter le premier épisode surtout, hein, ils écouteront pas les autres. Ils vont écouter pour vous encourager au départ.
C'est ça.
Ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher les autres personnes. Donc en fait, au-delà de faire un podcast, il faut comprendre que faire un podcast, c'est surtout communiquer, donc c'est utiliser les outils de communication. Si vous attendez que les applications d'écoute soient ceux qui vont vous amener de l'audience, ben vous avez faux. C'est vraiment vous, à force de répéter que vous faites un podcast, que vous avez un podcast, dans n'importe quel milieu, hein. D'ailleurs ça peut être en repas de famille, ça peut être à la machine à café, au bureau, ça peut être n'importe où, dites toujours que vous faites du podcast et puis investissez les réseaux sociaux. C'est quand même assez magique d'avoir ces outils-là de manière gratuite.
D'accord, faut en parler tout le temps. C'est pour ça que aujourd'hui je retourne aussi sur un format papier. Avec des cartes de visite carrées pour qu'elles soient un petit peu différentes.
Avec un QR code
derrière. Bah oui, ça permet d'avoir la cover en fait, donc la couverture de l'émission d'un côté, et de l'autre côté d'avoir le QR code pour aller écouter les podcasts en fait, les émissions qui ont été produites. Et ça prend pas beaucoup de temps parce qu'il suffit de tendre la carte de visite à quelqu'un en disant tiens, je fais du podcast. Ah ben regarde, va là-dessus. Ah, comment ça marche? Je sais pas. Bah prends, t'as un smartphone. Bah vas-y, flash. Tu vois, hop, t'arrives directement sur l'émission. Tu vois, en haut à droite, il y a un petit truc, c'est marqué s'abonner. Bah abonne-toi, comme ça, tu rateras rien. Et puis je te laisse écouter, puis me mettre un commentaire.
Et c'est une super technique parce que pour le coup, tu as donné la carte à ma tante qui a scanné le QR code, alors qu'elle ne sait pas utiliser un scanner de QR code, donc je lui ai expliqué comment faire, et elle est tombée directement dessus, alors que sinon elle serait pas du tout allée le chercher, parce que, flemme d'aller chercher, elle sait pas comment fonctionne le réseau, etc. Et, elle a écouté, elle a adoré, elle a dit qu'elle était super fière de moi, et du coup, quand tu reçois derrière tout l'amour des personnes qui t'écoutent, ça fait chaud à son petit cœur, clairement.
Carrément. Donc, podcaster, oui, mais surtout apprendre à communiquer.
Merci pour cette super conclusion. Je vais redonner la main à Olivier pour l'animation sur les deux dernières catégories, puisque je vais être l'intervenante sur le RSE et le handicap.
Alors, sur la table des experts d'un métier presque parfait, on aborde toujours la partie RSE, qui est quand même importante. Experte RSE, aujourd'hui, Clémentine, qui s'est penchée sur le sujet. Donc, Clémentine, déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, par rapport au RSE, de l'homme et de son environnement?
Alors oui, tout à fait. Le matériel dont on a besoin pour enregistrer un podcast, c'est du matériel de la mondialisation. Donc techniquement, comme à peu près dans tous les métiers, ça respecte pas franchement l'environnement.
Ouais.
Mais il y a possibilité d'acheter d'occasion et reconditionner. Ce qui impacte moins l'environnement. Après, bien sûr, faut regarder que ça soit de bonne qualité, etc. Mais voilà, c'est pas un drame, on va dire. Ensuite, on n'est pas sur une activité qui va, elle, révolutionner ou remplacer quelque chose pour améliorer l'environnement. En revanche, on peut se servir justement du podcast pour sensibiliser à tout ce qui est environnement et sauvegarde de la planète. Notamment parler des innovations qui, elles, ont un réel impact. Donc, c'est un bel outil pour sensibiliser à l'environnement. Et pour finir sur cette catégorie-là, c'est un métier qui peut être nomade. Alors, ok, quand on pense nomade, des fois on pense aux voitures, etc. Mais tous les déplacements ne se font pas en voiture. On peut aussi opter pour la mobilité douce, notamment train, métro, vélo, pour aller chez les personnes, pour les interviewer. Puisque le matériel est facilement transportable, donc on met ça dans son sac à dos, bien mis pour pas l'abîmer, pour pas devoir en racheter, bien sûr. Et puis on peut aller du coup en mobilité douce faire ses interviews. Et on peut même aller jusque grouper plusieurs interviews au même endroit le même jour pour éviter de démultiplier les trajets.
Oui, je confirme. Effectivement, moi ça m'arrive tout à fait de prendre le train ou le métro ou même un bus pour emmener mon matériel avec un sac à dos et simplement les pieds de micro, clairement. J'ai pas forcément besoin d'avoir un véhicule pour pouvoir me déplacer tout le temps. Et aujourd'hui, j'évite de plus en plus d'ailleurs d'utiliser mon véhicule, sauf quand effectivement, malheureusement... il n'y a pas d'autre possibilité, quoi. Mais je préfère la mobilité douce. Tu parlais effectivement de l'environnement. Le métier de podcasteur aujourd'hui, est-ce que c'est un métier qui est, tu penses que c'est un métier qui est respectueux et qui fait attention effectivement à l'environnement et à la planète et au bien-être animal?
Alors pour la catégorie bien-être animal, ça ne perturbe pas franchement l'environnement. Là où, par exemple, avec le drone, la dernière fois, effectivement, ça dérangeait l'environnement. Là, c'est comme, en fait, se balader avec, comme si c'était le smartphone à la main, mais à la place, on a le micro. Donc, ça dérange pas, sauf si, bien sûr, on se met à courir après un oiseau pour avoir un bruit de cuicui, mais normalement, on n'est pas censé faire ça. La plupart du temps, on aime le silence pour pouvoir enregistrer un podcast. On aime qu'il n'y ait pas de personne qui papote à côté. On aime qu'il n'y ait pas de bruit dans le jardin, que ça soit les oiseaux ou la tondeuse du voisin, et qu'il n'y ait pas de vent. Donc, en général, on va pas trop aller en extérieur, sauf si on part sur du podcast en pleine immersion, où justement, là, on va dehors, parce qu'on aime bien les petits bruits de cuicui, mais on va pas déranger l'environnement.
Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Ça m'arrive aussi d'enregistrer des podcasts en extérieur, dans des forêts, où c'est quand même assez sympathique. En fait, c'est un environnement complètement différent pour les personnes. Elles s'attendent pas à ce que on puisse avoir un studio mobile et s'installer sur une petite table pour déjeuner le midi. Et en même temps, pourquoi pas enregistrer son podcast sur place. Mais ça, bon, c'est vraiment très spécifique, hein. Autre chose que je voudrais voir également avec toi au niveau RSE, c'est ce qui va comporter également toutes les inclusions sociétales. Tu peux nous en dire un peu plus à ce niveau-là?
Alors, le métier de podcasteur est accessible à tous. Alors, comme on l'a dit avant, bien entendu, pour en vivre, il faut vraiment réussir à se donner à fond. Mais c'est accessible à tous, peu importe le quartier d'où on vient, peu importe ses origines, peu importe son histoire et peu importe son compte en banque. Puisque, comme on l'a dit précédemment, on peut commencer juste avec son smartphone et éventuellement un micro-cravate ou même le dictaphone directement du téléphone.
Tout à fait, ouais.
Sous réserve qu'il soit bon, comme on disait, avec l'iPhone. Enfin, je pense que le Pixel 7 Pro que j'ai est pas dégueulasse non plus, mais bon. Et ensuite, si effectivement on a envie de se professionnaliser, du coup, on peut investir à ce moment-là dans du bon matos, mais déjà, l'idée, c'est de voir si la communauté prend, s'il y a de l'audience, et donc on peut commencer avec son téléphone. Donc, au niveau inclusion sociétale, c'est accessible à tous.
Aujourd'hui, on parle également dans les plans RSE, on aborde surtout un sujet également avec les ressources humaines, en fait. C'est vrai qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont parfois des difficultés aussi à recruter ou à fidéliser leurs collaborateurs. Sur le métier de podcasteur, est-ce que tu as une idée un petit peu sur comment ça se passe pour les collaborateurs d'une entreprise?
Alors, c'est quand même la plupart du temps en indépendante, donc on va pas plutôt partir sur le côté collaborateur en entreprise, mais conditions de travail. Effectivement, c'est un métier plutôt agréable, sans trop de contraintes, on va dire, avec une possibilité de travail de... C'est un métier agréable, sans trop de contraintes, avec une possibilité de télétravail, soit partiel pendant la période de post-production, ou total, si on ne fait que des interviews en distanciel.
Oui.
Donc un certain confort tout de même. C'est par contre un peu stressant, puisqu'on peut quand même ressentir une pression de devoir rendre l'épisode à telle date ou à telle durée, et ce que va penser le client. Ça, c'est un stress qu'on peut ressentir, et on peut aussi avoir du coup la pression financière, puisque c'est pas évident pour tout le monde d'en vivre. Mais c'est aussi beaucoup de belles rencontres, beaucoup d'enrichissement personnel, et du coup, c'est vrai que c'est quand même agréable comme métier. Il y a peut-être les personnes qui font du podcast en solo qui vont ressentir plus de solitude, mais la plupart du temps, c'est quand même un métier où on rencontre du monde.
Oui, tout à fait. Ouais. Merci en tout cas pour nous avoir éclairé sur cette partie RSE. Et tout de suite, on se retrouve pour parler du handicap. Et là, je sais que tu nous as préparé des choses exceptionnelles. On va parler un petit peu de l'accessibilité du métier de podcasteur suivant les différents handicaps qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Et je pense que tu vas nous surprendre.
Oui, c'est ça. L'objectif, c'est de parler effectivement de l'accessibilité en fonction des handicaps, mais également de proposer des pistes d'amélioration et d'adaptation pour que tout le monde puisse faire ce métier. Alors, j'ai découpé selon les différents types de handicaps. On va commencer par les troubles moteurs. Les troubles moteurs, ce n'est pas un obstacle pour être podcasteur. Sauf si, effectivement, on a l'impossibilité d'utiliser ses mains, puisque c'est utile pour appuyer sur les boutons de l'enregistreur, et aussi pour tout ce qui est le montage. Mais il y a des adaptations. On peut déléguer le montage. On peut faire ça en binôme pour l'enregistrement. Par exemple, si on a un invité, c'est l'invité qui peut appuyer sur le bouton. On lui explique, bah voilà, appuie sur tel bouton, et puis il le fait. Ou demander à la personne, si on le fait en solo, la personne qui nous accompagne au quotidien. Parce que bien généralement, quand on a des soucis d'utilisation de sa main, on a quelqu'un qui vient nous aider au quotidien. Ensuite, on a les troubles 10. Pareil, c'est pas un obstacle. Si on est dyslexique, faut juste penser à ne pas écrire son discours à l'avance et plutôt partir sur du spontané et de l'impro. Ça sera beaucoup plus simple et il n'y aura pas ce stress de devoir lire. Et justement, ça permet à ces personnes de pouvoir s'exprimer sans le stress de devoir lire son discours. Ça réduit également les inégalités sur l'orthographe puisque ben, c'est à l'oral en fait. Donc pour les troubles 10, allez-y clairement, faites-vous plaisir. C'est un super moyen de communication et c'est un super métier.
D'autres handicaps également qui pourraient faire ça ?
Oui, bien sûr. Après, on a les troubles auditifs. Je pense que c'est peut-être le plus compliqué, mais qui permet aussi d'avoir des adaptations, puisque ben, comme c'est du son, il faut pouvoir avoir du son, et il faut pouvoir entendre le son. Donc, ça va dépendre du degré du trouble. Si la personne oralise, on peut enregistrer, il n'y a pas de souci, puisqu'on va avoir sa voix. Si elle oralise pas, c'est déjà plus compliqué, il faut éventuellement penser à avoir quelqu'un qui va traduire et qui va s'exprimer pour la personne. Si elle oralise, mais qu'il y a de la surdité, le binôme ou l'invité... s'il s'est signé, il peut communiquer avec la personne, mais on peut aussi avoir, ce que je disais, un signeur, quelqu'un qui va venir traduire en langue des signes ou qui va prêter sa voix pour la personne. Pour le montage, par contre, effectivement, c'est nécessaire d'entendre ce qu'on a enregistré pour pouvoir le monter.
C'est
et
mieux.
Donc là, on peut partir sur de la délégation.
Bien sûr.
Délégation pour le montage. Après, on a tous les troubles visuels. Bah, ça va être la même problématique sur le montage que pour les troubles auditifs. Donc là, clairement, il faut déléguer, c'est beaucoup plus simple. Mais ça n'empêche pas d'enregistrer, de pouvoir être podcasteur en ayant des troubles visuels.
Tout à fait. Bah après, même pour répondre à, pour revenir à ce que tu disais par rapport aux troubles visuels, aujourd'hui, même en étant non-voyant ou malvoyant, on entend quand même ce qui se passe à travers un casque. Les touches d'un enregistreur sont pas très compliquées à trouver quand on a expliqué une première fois. Donc il y a tout à fait effectivement la possibilité de le faire. Et pour rebondir sur ce que tu me disais, tu me parlais des personnes qui sont, on va dire, muettes, hein, pour être clair, ou qui ne peuvent pas s'exprimer oralement. Même là, elles peuvent quand même créer des podcasts, hein, parce que tu vois, en fait, on parlait tout à l'heure de storytelling, etc. Tu peux très bien créer un storytelling pour une entreprise, faire dire les questions à l'entrepreneur, l'enregistrer derrière et le monter toi-même, en fait. Donc, t'es pas obligé non plus forcément de pouvoir donner ta voix ou prêter ta voix en fait au podcast.
Effectivement, c'est une piste à laquelle j'avais pas pensé et qui est très intéressante. Il nous reste encore quelques petits troubles à voir. On a les troubles psychiques et l'autisme. En fait, le podcast, ça va permettre de prendre la parole justement en petit comité, de pouvoir s'exprimer sans avoir un gros auditoire devant soi et de faire entendre sa voix quand même, sans être en contact forcément direct avec les personnes. Soit on peut le faire en solo, ou ce sera du podcast informatif par exemple. Soit on le fait en interview, mais on va faire des rendez-vous de découverte avec les personnes qu'on va interviewer. On va les rencontrer en amont, on va apprendre à se connaître, on va briser la glace, et ce qui va permettre de se mettre en confiance et d'être beaucoup moins angoissé et stressé, du coup, lors de l'enregistrement.
Je suis bien d'accord. Bien d'accord là-dessus. Juste, je rebondis 30 secondes sur ce que tu dis au fur et à mesure, mais quand on est timide ou également quand on a des troubles de personnalité, on ne voit pas les personnes. On peut enregistrer à distance, donc on n'est pas visible entre guillemets quoi. Il y a vraiment que le son. C'est comme si on passait un coup de téléphone en fait pour simplifier la chose, pour donner une image. Ou même quand on enregistre son propre podcast, bah aujourd'hui c'est une possibilité de communiquer et de dire des choses qu'on n'oserait peut-être pas forcément dire en public au départ.
Oui, tout à fait. Par exemple, si on a des tocs ou je sais pas, alors c'est pas forcément dans le thème du handicap, mais si on a des tocs de toujours remettre ses cheveux ou des gestes compulsifs, tant qu'ils font pas de bruit, bien sûr, parce que sinon ça, on entend à l'enregistrement, tant que ça ne fait pas de bruit, on ne les voit pas. Donc en fait, au final, t'as juste la personne avec qui tu es quand tu fais l'enregistrement qui le voit, et si la personne est tolérante et ouverte, il y a aucun problème, clairement.
Bon, à part la tourette verbale.
Oui, mais alors ça c'est la magie du montage derrière où tu peux couper les...
C'est ça.
Ou mettre des bips à ce moment-là. Bon. Puis ça permet de garder l'authenticité quand même de la personne, puisque si elle est comme ça, mais écoute, ma foi, on va pas couper tout.
Autre handicap dont tu veux nous parler également?
Oui, on va finir sur le TDAH, donc le trouble déficit de l'attention avec l'hyperactivité, et donc aussi l'hyperactivité sans le TDA. Là, je recommande du coup de faire des petits pense-bêtes, soit d'imprimer, soit d'écrire sa liste de questions, ou de se faire des post-it avec des thématiques pour ne pas oublier ceux dont on a envie de parler. Et pour le côté hyperactif, on peut enregistrer debout. Il faut juste rester à bonne distance du micro pour que le son soit bien capté. Et éviter de jouer avec des choses bruyantes dans ses mains, que ça soit des bics 4 couleurs.
Un truc comme ça, par exemple.
Voilà,
un
ça.
Un petit bic.
C'est excessivement agaçant, ou tous les petits trucs qui existent justement pour occuper ses mains. Bah juste, on fait une pause 5 secondes, on les range, on les laisse dans le sac, c'est comme les smartphones, et puis on enregistre, et puis après, voilà, on se refait plaisir. Tout ça pour dire que peu importe son handicap, il n'y a pas d'incompatibilité pour exercer ce métier, mais au contraire plein d'adaptation.
Merci Clémentine pour ces éclairages sur le métier de podcasteur, ouvert également aux personnes qui ont un handicap. C'est un métier qui leur est totalement ouvert, et Clémentine et moi-même, on se tient également à votre disposition. Si vous voulez en parler, ce sera avec une grande joie. Merci à toi.
Merci beaucoup, Olivier.
Merci à Élisée Barthélémy pour leur intervention sur la table des experts autour d'un métier presque parfait, qui était animé aujourd'hui par Clémentine dans sa mission de tester tous les métiers avant la retraite. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif de ce podcast pour découvrir nos invités. Le lien vers leur podcast, leurs réseaux sociaux et leur site internet. Cet épisode vous a plu? On vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Des difficultés de recrutement, un métier méconnu, on vous invite à prendre contact avec Clémentine pour y faire tester votre métier et profiter d'une forte visibilité avec ce format marketing unique d'un métier presque parfait. Et si vous souhaitez découvrir un métier en particulier, eh bien contactez-nous. On vous prépare un bonus avec l'intégralité de l'interview de Barthélémy, et surtout pour ne pas le rater, abonnez-vous à la table des experts. Prochain rendez-vous avec un nouveau métier que va tester Clémentine. À votre avis, quel sera ce métier ?